Bonjour à tous. Est-ce que vous avez déjà eu le sentiment de ne pas être à votre place? Un peu comme si vous étiez à un certain moment, un peu placé là où vous êtes, par hasard. Sans que ça ne corresponde vraiment à ce que vous êtes réellement, intérieurement. Alors, ça peut concerner peut-être le milieu du travail dans lequel vous êtes. Ça peut peut-être concerner aussi votre entourage familial. L'impression d'être un peu en décalage par rapport à votre famille. Ça peut concerner aussi peut-être votre cercle amical dans lequel vous ne vous sentez peut-être pas ou peut-être plus du tout à l'aise. Alors parfois, on peut se sentir totalement incompétent, on peut se sentir un peu à côté de ses baskets, on peut se sentir complètement inutile, voire même un peu gênant dans certaines situations. Alors juste par lever de main très rapide, pour que je me sente un peu moins seul, qui a déjà eu ce sentiment? Ah, quand même, d'accord. J'avais peur d'avoir dévoilé un truc qui ne m'arrivait qu'à moi. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. Nous sommes dans la Drôme il y a à peu près une dizaine d'années, environ, 2015-2016. À cette époque-là, j'habitais encore près de Marseille. Et j'ai fait donc 2 heures de route pour assister dans la Drôme à un conseil d'administration d'une association drômoise parce qu'on m'avait demandé de le faire, un peu contre mon gré. Alors voilà, j'arrive dans une salle qui est juste à côté d'un grand entrepôt, déjà un peu intimidant, et je viens pour saluer les personnes qui sont présentes. Alors autour de la table, il y a à peu près juste un peu moins d'une dizaine de personnes. Alors à l'époque, j'avais 27-28 ans. Et il n'y avait que des personnes plus âgées que moi. Alors un peu plus tard, j'apprendrai qu'ils sont tous, à une ou deux exceptions près, dirigeants de structures chrétiennes plus ou moins grosses. Alors pour ceux qui connaissent un tout petit peu le monde chrétien évangélique, il y avait notamment donc le directeur général de la CLC, il y avait un des gérants de la Maison de la Bible en Suisse, il y avait le directeur d'IMEAF, qui est un imprimeur chrétien de la Drôme, il y avait un représentant d'Excelsis, qui est une maison d'édition dans la Drôme aussi, il y avait le directeur des éditions de la Ligue pour la lecture de la Bible, qui était à Valence. Il y avait le directeur de BLF à l'époque, coucou Myriam, qui est une maison d'édition aussi. Il y avait un des dirigeants de la CIM, donc la Société Internationale Missionnaire. Et il y avait une représentante de l'Institut Biblique de Nogent-sur-Marne, en région parisienne. Et parmi eux, il y avait aussi donc, le directeur de l'association dans laquelle toutes ces personnes étaient administratrices plutôt. Et au milieu de tout ça, ou plutôt à côté de tout ce monde, il y avait moi. Directeur de rien du tout. Je n'étais rien. Je me sentais vraiment tout petit. Alors déjà, physiquement, je ne suis pas très imposant, mais au-delà de ça, j'étais vraiment très, 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 très intimidé et je ne me sentais pas du tout à ma place. Et là, on commence la réunion. Et c'était une toute première pour moi. Je n'avais jamais été à un conseil d'administration. Et lorsqu'arrive mon tour de me présenter, le stress monte et je ne sais pas quoi dire. Et en fait, tout naturellement, je bégaye. Je vais bégayer. Alors, autant vous dire que j'avais un fort sentiment de gêne, un sentiment de gêne mêlé un peu à de la honte, de la peur. Peut-être que vous avez déjà vécu ça. Je me posais la question, mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi est-ce que j'ai accepté de venir ici ? Je n'ai rien, mais strictement rien à voir avec tous ces pontes des affaires évangéliques. Bref, je me sentais un peu comme un imposteur au milieu de toutes ces personnes. Et puis au final, en fait, j'ai appris à connaître ces personnes-là au rythme de nos réunions trimestrielles. Et finalement, j'ai appris qu'aucun d'eux ne mordait. Et que plusieurs, même, étaient sympathiques et certains avaient de l'humour. Pas tous. Alors, ça fait quelques années que j'ai arrêté ce mandat d'administrateur dans cette association, mais je vous le raconte parce que ça m'a quand même un peu marqué, surtout la première fois. Et du coup, j'ai appris il n'y a pas si longtemps qu'on avait trouvé un nom pour ce genre de sentiment. On appelle ça le syndrome de l'imposteur. Comme un sentiment de ne pas être assez qualifié, ne pas être apte à faire face à ce qu'on est en train de vivre. C'est comme un genre de sentiment de culpabilité, peut-être, quelque part. Culpabilité d'être là où nous sommes. Culpabilité de faire ce que l'on fait sans avoir les qualités ou les qualifications qu'on pense être indispensables pour la chose en question. Fin de l'anecdote. Alors nous sommes aujourd'hui toujours dans la suite de notre série sur les épîtres de Jean. Et notre texte aujourd'hui vient directement à la suite de ce que Michael nous a partagé la semaine passée. Donc, pour rappel, nous sommes dans le chapitre 3 de la première épître. Et donc, nous allons voir les versets 19 à 24. Ça ne sera pas affiché, mais je vais vous le lire. Ce texte que nous allons voir aujourd'hui s'adresse à ceux qui doutent dans leur foi. J'ai parfois des moments de doute, et peut-être que je ne suis pas seul. Une de ces questions vous a déjà peut-être traversé la tête. Suis-je réellement sauvé ? Suis-je à ma place ? À ma place dans ma famille ? À ma place dans mon entourage ? À ma place dans mon travail, à ma place dans mon église. Suis-je encore aimé de Dieu ? Alors je vais lire notre passage qui est du coup dans 1 Jean chapitre 3 versets 19 à 24 et je vais lire dans la version du Semeur. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. Et nous rassurerons notre cœur devant Dieu si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre. Car Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Mes chers amis, si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Or, que nous commande-t-il ? De placer notre confiance en son Fils Jésus-Christ et de nous aimer les uns les autres comme il nous l'a lui-même prescrit. Celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous ? À l'Esprit qu'il nous a donné. Alors notre texte commence par ces deux premiers mots, ou plutôt trois. C'est ainsi. Alors comme lorsqu'on regarde un nouvel épisode d'une série, tout ce qui arrive fait directement suite à ce qui précède. C'est très logique. Alors je vais faire un peu de publicité, parce que j'aime bien, en vous disant que donc, la prédication de la semaine dernière est bien disponible en replay sur notre site de l'Église. Allez-y. C'est gratuit, en plus. Donc, si vous souhaitez savoir ce qui se cache derrière ce « c'est ainsi », allez écouter la prédication de Michael. Et pour résumer en quelques mots le message, on peut déjà lire les extraits du texte qui précède directement notre passage du jour. Jean va dire, quelques versets plus tôt, « Celui qui demeure uni à Jésus-Christ ne pèche pas. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères. Que notre amour ne se limite pas à des discours et à des belles paroles, mais qu'il se traduise par des actes accomplis dans la vérité. » J'ai lu là les versets 6, 16 et 18 du chapitre. C'est ainsi, ces trois mots, correspondent donc à ces quelques faits. Lorsqu'on ne pèche pas, lorsqu'on aime les autres à travers des actes concrets et dans la vérité. Lorsqu'on ne pèche pas, lorsqu'on aime les autres à travers des actes concrets et lorsqu'on aime dans la vérité. C'est ainsi que nous saurons que nous appartenons à la vérité. Autrement dit, c'est ainsi que nous sommes réellement sauvés, lorsque nous ressemblons de plus en plus à Jésus-Christ, premièrement en haïssant le péché, et deuxièmement en aimant les uns les autres, en nous aimant les uns les autres, de manière très pratique. Par contre, dans la suite de notre passage, Jean nous dit que notre cœur peut nous condamner, malgré tout. Alors, il ne parle pas ici du malin, hein. Il ne parle pas du diable, il ne parle pas de l'accusateur qui ferait son travail, son mauvais travail. Non, là, il nous parle de notre cœur. Il parle peut-être de notre conscience, qui est un peu bancale. Il parle peut-être de notre intelligence, qui est un peu limitée, en tout cas pour moi, ou de nos réflexions qui peuvent être un petit peu à côté de la plaque. Pour être très concret, je vous donne quelques exemples des réflexions qu'on peut se faire à nous-mêmes. Je suis nul. Pourquoi j'ai fait ça? J'aurais jamais dû m'écouter. J'ai honte de moi. Et je peux encore me dire que je suis chrétien après ça. Je n'ai rien à faire ici. Parfois, ces phrases qu'on se dit, qu'on se répète, peuvent nous détruire. Elles nous détruisent parce qu'elles nous auto-condamnent. Alors attention, lorsque ces phrases nous viennent en tête dans un contexte où nous avons préalablement désobéi à Dieu, où nous avons peut-être délibérément péché, il y a peut-être une remise en question saine et une repentance qui peut en découler, et c'est tant mieux. Par contre, quand ces phrases deviennent récurrentes, lorsqu'elles viennent remettre en question même notre salut, et lorsqu'elles viennent remettre en question aussi l'amour de Dieu pour nous, là, il y a un danger. Mais là où il y a ce danger, il y a aussi un réconfort. Nous rassurerons notre cœur devant Dieu si notre cœur nous condamne d'une manière ou d'une autre, nous dit Jean. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Il nous voit non pas à travers notre péché, mais il nous voit à travers Christ. Christ en qui nous avons placé notre confiance. Alors, notre péché nous avait éloignés de Dieu, mais le sacrifice de Christ nous a rapprochés de Dieu. Il a restauré cette relation qui était brisée. Et désormais, du coup, lorsque nous plaçons notre foi, lorsque nous plaçons notre confiance en Christ, notre péché ne peut plus nous condamner. Ainsi, si notre cœur nous condamne encore par ses réflexions et ses paroles, « Soyons rassurés, Dieu est plus grand que notre cœur. » Alors lorsque le doute survient, lorsque ces questions un peu accusatrices nous viennent en tête, posons-nous ces questions. Est-ce que ma foi est en Jésus? Si la réponse est oui, alors ça doit dissiper nos doutes. Si Dieu ne me condamne pas, lui qui est au-dessus de tout, pourquoi est-ce que je continuerai à me condamner moi-même? Mais attention, il y a quand même des balises pour savoir si je suis dans la vérité. Les balises, c'est celles que Michael nous a dit la semaine passée, c'est je ne vis pas dans le péché et j'ai de l'amour pour les autres. Autrement dit, je vis en imitateur de Christ parce que j'ai placé ma confiance en lui. Il va nous arriver de douter. Mais si ça nous arrive, si nous doutons de l'amour de Dieu, Paul nous a laissé un écrit aux Romains lorsqu'il dit « J'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni le futur, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. » Rien ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu qu'il nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne doutons pas de l'amour de Dieu. Mon péché ne plaît pas à Dieu. Ça, c'est une certitude. C'est biblique. Ma désobéissance ne plaît pas à Dieu non plus. C'est aussi une certitude. Mais l'autre certitude, c'est que cela ne remettra jamais en cause mon salut. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous sommes pleins d'assurance devant Dieu. Il nous donne tout ce que nous lui demandons. Ça, c'est ce qui concerne le doute. Est-ce que vous saviez qu'il y avait un secret dans la Bible pour tout avoir dans notre vie ? Un secret pour avoir tout ce qu'on demande. Alors, rassurez-vous, rassure-toi Henri, je ne suis pas en train de lancer une secte, je ne suis pas en train de répandre une certaine hérésie dans l'Église. Je ne profite pas de l'absence du pasteur pour dire n'importe quoi, non. Mais la parole de Dieu est claire ici. Il nous donne tout ce que nous lui demandons. Comment comprendre ça ? Il y a quelques années, j'ai assisté à une réunion de chrétiens que je croyais tout à fait banale. Et vers le milieu de la soirée, une personne a pris la parole et a dit avec beaucoup, beaucoup de sérieux, « Moi, si je veux une Ferrari rouge, je le demande très spécifiquement dans ma prière et Dieu me l'accordera à un moment ou à un autre. » Alors je suis resté bête. J'ai fixé la personne avec un regard un peu mêlé de surprise et de dégoût. Et la personne en question a poursuivi, « Oui, parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous pouvons tout lui demander. Nous sommes les enfants du roi, donc nous sommes des princes et des princesses. » C'est un discours que l'on entend souvent dans certaines églises qui prêche l'évangile de la prospérité, si vous êtes familier avec ça. Alors avec le temps, Dieu m'a appris à avoir un peu plus de compassion pour mon prochain et moins de condescendance. Mais à l'époque, quand j'ai entendu ça, j'avais des réflexions internes de jugement très très fort envers cette personne. Alors est-ce que c'est vraiment ce que la parole de Dieu nous enseigne ? Jean nous dit ici, il nous donne tout ce que nous lui demandons. Dans cet épître de Jean. Dans son évangile, l'évangile de Jean, il rapportera ces paroles de Jésus, que Jésus donc a dites, en chapitre 14. « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. » Puis au chapitre 15, toujours ces paroles de Jésus, demandez ce que vous voudrez, vous l'obtiendrez. Alors effectivement, si dans ma vie, je pense qu'il me manque une villa sur la Côte d'Azur, ou alors une Rolex pour combler ma vie, est-ce que Dieu me l'accordera forcément si je lui demande au nom de Jésus ? Malheureusement, ou plutôt heureusement, heureusement que non. Ces versets que j'ai cités sont en fait un peu tronqués. Et ce sont des versets qui sont utilisés à tort dans plusieurs églises, malheureusement. Voici les conditions que la parole de Dieu nous indique. Jean, dans notre passage, va poursuivre. Il nous donne tout ce que nous lui demandons parce que nous obéissons à ses commandements et que nous faisons ce qui lui plaît. Les paroles de Jésus dans l'évangile de Jean nous disent « Quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai. » Mais la suite, « Pour la gloire du Père, pour que la gloire du Père soit manifestée par le Fils. » Il va dire dans le chapitre 15 « Mais si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voudrez. » Vous l'obtiendrez. Il semblerait qu'il y ait quelque part une condition ici. La condition est celle de demeurer en Dieu et de rechercher sa gloire et non la nôtre. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça voudrait dire que nous sommes tellement en communion avec Dieu, nous demeurons en lui et nous faisons sa volonté, la nôtre. La volonté de Dieu devient la nôtre, et non l'inverse. Souvent, on a notre volonté, et on force Dieu à avoir celle-ci aussi. Et quelle est sa volonté ? Sa volonté, c'est que nous demeurions en lui. Et ici, il semble comme y avoir une sorte de cercle vertueux, puisque plus nous faisons ce qui plaît à Dieu, plus nous demeurons en lui et plus nous voulons faire ce qui lui plaît. Jean dit, celui qui obéit à ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Quelque part, Jean paraphrase ici les paroles mêmes de Jésus. Jésus qui a dit, si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, tout comme moi-même j'ai obéi aux commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Et Jean va finir son chapitre en disant, et à quoi reconnaissons-nous qu'il demeure en nous, à l'Esprit qu'il nous a donné ? Nous avons un cadeau inestimable. Les amis, ceux d'entre nous qui avons placé notre foi en Jésus, nous avons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vit en nous et qui atteste que nous demeurons en Dieu le Père si nous avons placé notre confiance en Jésus. Et maintenant, si nous remontons un peu les événements, nous pouvons dire que nos actes concrets envers notre prochain attestent de la réalité de notre foi. De notre foi intérieure découlent nos actions extérieures. Et par la grâce de Dieu, tout ça, ça s'auto-alimente. Ma foi alimente mes œuvres et mes œuvres fortifient ma foi. Alors si nous nous sentons incapables, si nous nous sentons un peu accablés par notre cœur, souvenons-nous que cela ne change rien, absolument rien, à notre salut. Souvenons-nous que cela ne change absolument rien non plus en l'objet de notre salut, qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on se sent un peu faible, qu'on se sent un peu minable, que le regard d'amour que Jésus porte sur nous va changer. Ce regard reste le même. Ce n'est pas parce qu'on a peur de notre avenir que les promesses de Dieu vont changer. Ce n'est pas parce qu'on dit des âneries que la parole de Dieu, elle, varie pour s'adapter à nos bêtises. Non. Dans nos vies changeantes, Dieu, lui, il reste constant. Et enfin, pour finir sur une analogie un peu végétale, vous savez tous que j'ai plusieurs citronniers, j'en ai parlé depuis des années. Si vous étiez un citronnier, et si vos racines sont ancrées en Dieu, que vous, vous êtes le tronc, les branches, alors les branches, les feuilles et les fleurs que vous produisez sont les fruits de votre foi. Qu'est-ce qui alimente ces fruits ? La sève du Saint-Esprit qui vit en vous. Alors comment savoir que vous êtes réellement un citronnier et attester que vous n'êtes pas un autre arbre ? En observant vos fleurs, qui vont devenir de beaux fruits, et en sentant la bonne odeur d'agrumes sur vos feuilles, parce que oui, les feuilles de citronnier sentent le citron. En observant ça, on verra effectivement que vos racines sont des racines de citronnier et que vous en êtes effectivement un. De la même manière, nos racines nous garantissent la production de nos fruits et nos fruits attestent de la réalité de nos racines. Alors, quel genre de fruits est-ce qu'on produit ? Est-ce que c'est l'amour pour les autres, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité ? Ou alors est-ce que c'est la haine, les querelles, la jalousie, la colère ou la division ? Chers amis, je prie que Dieu éclaire nos cœurs et qu'il affermisse notre foi en lui. Je vais prier.